Radio Kapi.
Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Plusieurs candidats ont déjà donné leur nom pour les différents postes du bureau définitif du Sénat. On peut citer pour le poste de président Jonas Mukamba et Samalou Kondé, sans oublier la candidature de Salomon Idika Londa et de Jean-Claude Bayende pour le poste de rapporteur adjoint. L'unique poste qui revient à l'opposition, c'est ce lundi 5 août que débute en effet le processus d'élection et d'installation des membres du bureau définitif du Sénat. Après l'occupation hier dimanche de la cité d'Ishasha, à la limite entre la RDC et l'Ouganda, la situation reste tendue dans la partie nord du groupement de Binza, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les habitants, inquiets d'une éventuelle avancée des rebelles vers Nyakakoma, commencent déjà à fuir cette zone du parc national des Virunga. Marie-Claire Manafundo est l'invitée de ce journal. La directrice du centre Mamaline va parler de l'encadrement et de l'aide accordée aux femmes vulnérables et victimes de violences sexuelles dans le Maniema. Bonsoir à tous. Début ce lundi du processus d'élection et installation des membres du bureau définitif du Sénat. Ce processus commence avec le dépôt des candidatures aux différents postes de ce bureau. Jonas Mukamba et Jean-Michel Samalou Kondé s'affronteront pour la présidence, alors que Jean-Claude Bayende et Salomon Kalonda se disputent le poste de rapporteur adjoint. Plusieurs autres candidats de l'Union sacrée ont postulé au poste de premier et deuxième vice-président, au poste de rapporteur avec deux candidatures de questeurs et des questeurs adjoints. Michel Kifindangoy.
Après plusieurs tractations, l'Union sacrée pour la nation n'est pas parvenue à présenter un ticket unanime aux différents postes du bureau définitif du Sénat. Outre le sénateur Jonas Mukamba, Jean-Michel Samalou Kondé a aussi candidaté au poste du président de la Chambre.
Je suis venu déposer ma candidature qui s'inscrit dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, d'abord en tant qu'ancien parlementaire, puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques.
Même l'opposition n'a pas pu trouver de consensus. La candidature de Salomon Kalonda de Ensemble au poste de rapporteur adjoint est aussi court-circuitée par celle de Jean-Claude Bayende.
Nous, opposition, au sein du Sénat, nous sommes qu'à 4 et nous serons départagés par les sénateurs de la majorité. J'ai postulé à l'unique poste qui a été réservé à l'opposition pour aider notre chambre à relever la qualité du travail.
Notez que Modeste Bahati Lukwebo, président sortant du Sénat, a postulé au poste de deuxième vice-président.
Au Nord Kivu, la situation reste tendue dans la partie nord du groupement de Binza, territoire de Rutshuru. Après l'occupation hier dimanche de la cité d'Ishasha, située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, les rebelles n'ont pas encore avancé vers l'enclave de pêche de Nyakakoma, mais une certaine psychose gagne déjà les habitants de ce coin, situé dans le parc national des Virunga. Bernard Nyangi.
Ishasha, environ 60 km au nord-ouest de Kiwanja, est le deuxième poste frontalier en importance entre la RDC et l'Ouganda dans le territoire de Rutshuru après celui de Bunagana. Son occupation est intervenue en début d'après-midi hier dimanche après un échange de tirs de courte durée avec les combattants locaux dans la localité de Buganza, environ 7 km plus au sud. Les acteurs de la société civile locale, qui ne cachent pas leur déception face à la perte de cette autre entité stratégique, affirme que certains cadres de la fonction publique ainsi que quelques officiers de la police nationale congolaise qui étaient encore sur place à Ishasha ont traversé la frontière pour se réfugier en Ouganda voisin. Entre-temps, c'est une panique généralisée qui est signalée pour l'instant dans le village de pêche de Nyakakoma sur la côte sud-est du lac Édouard. Si l'avancée rebelle n'est pas encore signalée à cet endroit, quelques habitants embarquent depuis hier dimanche dans des pirogues pour fuir en direction de Lubero ou de Beni. Rappelons que depuis la reprise des combats dans cette zone vendredi 2 août, la quasi-totalité des villages du groupement Binza est passée sous occupation des rebelles. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Notez par ailleurs que c'est hier 4 août à minuit que le cessez-le-feu a pris effet dans l'est de la RDC après une trêve humanitaire de 15 jours. Cet accord signé le 30 juillet dernier sous la facilitation de l'Angola engage la RDC et le Rwanda dans un processus du rétablissement de la paix dans la région. Sur le terrain, en revanche, ces mesures ne sont visiblement pas suivies ou respectées par les parties au conflit. Denise Lukeso.
À l'expiration de la trêve humanitaire vendredi 3 août dernier à minuit, le cessez-le-feu a pris effet immédiatement le lendemain. Sur le terrain, notamment dans la région de Binza, les armes ne se sont pas tues. Les rebelles du M23 qui occupent déjà la quasi-totalité du territoire de Rutshuru et une partie des Masisi, Nyiragongo et Lubero poursuivent des attaques et des avancées vers de nouvelles entités. De nombreux acteurs politiques en province saluent ce cessez-le-feu et exigent en même temps la création des zones tampons sous la surveillance de la MONUSCO. Ezekanendo, député provincial honoraire, revient ici sur cette demande.
Notre souhait est que ceci soit respecté par tous. L'occasion pour nous de réitérer la création d'une zone tampon à Kirumba, Kaina et Kanyabayonga par les mécanismes ad hoc qui doit travailler de concert avec la MONUSCO. Ceci servira comme couloir humanitaire et permettre de vérifier le respect du cessez-le-feu. Nous demandons la réouverture de la route Goma-Rutshuru-Kanyabayonga.
Dans un communiqué daté le 1er août dernier, l'AFC M23 a rejeté ce cessez-le-feu. À en croire son porte-parole, les conclusions de la dernière réunion de Luanda, à laquelle ils n'ont pas été conviés, ne les engagent pas automatiquement. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
En Ituri, le centre commercial de Tchomia et sa périphérie sont vidés d'environ 60% de leurs habitants. Nous sommes là, à 60 km au sud de Bounia, dans la plaine du lac Albert. Certains habitants ont trouvé refuge en Ouganda et d'autres ont fui vers Mahagi, Kasenyi et Bounia. Ils fuient tous la persistance de l'insécurité depuis le meurtre la semaine dernière d'au moins 6 personnes, militaires et civils confondus. Selon diverses sources, les activités économiques tournent également au ralenti. Isaac Raymond.
Le centre commercial de Tchomia se vide chaque jour de sa population, affirment des sources concordantes. Presque tous les habitants des localités de Sabé et Nyakova ont abandonné leurs maisons. Même des corps dans les villages à la périphérie de Tchomia, dont Tchéa, Kanyamukila et Tamba, qui précisent des notables. La majorité de ces personnes ont traversé les lacs pour s'installer en Ouganda. D'autres se sont rendus vers Mahagi-Port dans les territoires de Mahagi ou à Kasenyi et à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Selon des sources locales, ces déplacements des populations est dû à la persistance de la sécurité dans la zone. De nombreux jeunes disent être assimilés aux miliciens et sont obligés de quitter les milieux. D'autres catégories de la population déplorent également les tracasseries militaires et l'extorsion de leurs biens pendant les bouclages et les patrouilles. Des rumeurs d'attaques véhiculées dans les réseaux sociaux entraînent aussi les mouvements des populations. Les activités de pêche et le commerce tournent actuellement au ralenti, ajoutent des sources locales. Tous ces déplacés espèrent un rétablissement rapide de la sécurité par les gouvernements provinciaux pour regagner leurs milieux et relancer leurs activités de survie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le centre du pays, au Kasaï oriental, 3 militaires sont décédés ce lundi matin, non loin de l'aéroport de Bipemba, en Mbujimayi. 2 d'entre eux ont été tués par leurs collègues. Ils étaient fin service et devaient prendre le vol pour un voyage retour vers le Haut-Katanga. Le présumé meurtrier a, lui, succombé à ses blessures après avoir reçu une balle dans le bras. D'après le commandant intérimaire de la 21e région militaire, ces militaires avaient escorté en Mbujimayi les explosifs de la société dénommée Sassim. Explication Esther Ndalafi.
D'après des témoignages recueillis, tout est parti d'un double meurtre qui s'est produit vers 8h sur l'avenue de Doma au quartier de la Plaine en Mbujimayi. Quelques habitants de ce quartier affirment avoir vu 3 éléments de la police militaire armée transportant chacun son sac à dos en direction de l'avenue Fachi qui mène vers l'aéroport. Puis une discussion éclate entre 2 d'entre eux. L'un d'eux tire à bout portant sur son collègue et le tue. L'autre militaire, membre du groupe, se précipite pour le maîtriser. Le présumé meurtrier lui tire aussi une balle dans la tête et récupère immédiatement les chargeurs de munitions des défunts avant de se réfugier dans une parcelle résidentielle. Le commandant intérimaire de la 21e région militaire affirme avoir déployé plusieurs militaires dans ce quartier pour le maîtriser. Ce dernier s'est réfugié sur un arbre malgré les tirs de sommation. C'est après avoir reçu une balle dans le bras qu'il s'est jeté au sol. Conduit d'urgence dans un premier centre hospitalier pour les soins, il va succomber de ses blessures dans le second centre hospitalier. Les 3 corps sont actuellement gardés à la morgue. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans le grand dépôt de la centrale de distribution des médicaments de Kisangani Kamekis. Le dépôt est totalement consumé par le feu, dont l'origine reste encore inconnue. Le camion anti-incendie de la mairie n'est intervenu que vers 6 heures ce matin, alors que tous les médicaments étaient déjà partis en fumée. Depuis Kisangani, Jacques Moukonkole.
Le dépôt central est complètement consumé par le feu, encore vif jusqu'à cet avant-midi, et ne tient plus que par quelques murs et autres poutres qui ne tarderont pas à céder. C'est ici où étaient entreposés les gros des médicaments, dont la valeur est estimée à plus $1 million, regrette le docteur Aimé Eyane, directeur de la Kamekis.
Nous avons des médicaments de lutte contre la tuberculose, le VIH, le paludisme et même la COVID qui sont complètement consumés. Vous voyez même des gens qui étaient venus, que nous pensions que c'était des gens de bonne volonté. Ils ont emporté, même certains de nos biens, ils sont partis avec ça.
D'une capacité de 300 000 mètres cubes, ce dépôt a perdu un stock important à même de couvrir les besoins en médicaments dans les 23 zones de santé de la Tchopo et dans 4 autres de la partie nord du Maniema. Ceci pendant au moins 5 mois, souligne le docteur Aimé Eyane. Il pense que seule une enquête diligentée par des services compétents pourrait déterminer notamment les circonstances de ce drame. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans le Maniema, la société civile Force Vive réagit après le drame de dimanche au 28 juillet dernier. Je vous le rappelle, une baleinière a chaviré entraînant la mort de plus de 30 personnes. Le président de la société civile Force Vive du Maniema demande à l'autorité provinciale de remplacer à leur poste tous les responsables des différents services du beach de Kindu. Selon Maître Stéphane Kamundala, ces derniers participent à des pratiques frauduleuses qui encouragent le désordre. Maître Stéphane Kamundala l'a dit à Florence Kizalunga.
La société civile Force Vive du Maniema condamne avec la dernière énergie l'inertie, l'inaction, si par la complicité des autorités de tous les services spécialisés opérationnels dans les différents buts de la ville de Kindu, notamment les représentants de la division provinciale des transports et communications, les commissariats maritimes, etc., et demande que des enquêtes fiables soient menées par les autorités compétentes afin que tous ceux qui ont failli à leur charge répondent de leurs actes. L'associement demande à la hiérarchie de préciser de les remplacer rapidement parce qu'ils sont devenus des chefs coutumiers de ces lieux, familiers à tout le monde et complices de la fraude, de la corruption et de l'enrichissement illicite de quelques individus. Elle présente ses condoléances les plus émues à toutes les familles frappées par ce mal. Elle félicite pour une fois le gouvernement provincial du Maniema pour avoir non seulement décrété un deuil de 3 jours, mais aussi et surtout prise en charge tous les frais funéraires et d'autres qui sont connexes.
Dans la partie ouest du pays, au Congo central, le gouvernement provincial envisage la construction des aires de stationnement et de repos sur la route nationale numéro 1, axe Matadi-Kinshasa. C'est l'une des mesures prises pour lutter contre les embouteillages et les accidents dans la ville portuaire de Matadi et sur la nationale numéro 1. Décision prise lors du 2e conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central, tenu vendredi dernier à Matadi. Nana Plurich Mambo.
Au cours de cette réunion, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central, est notamment revenu sur la difficulté de circuler notamment dans la ville de Matadi et sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Le chef de l'exécutif provincial s'est dit déterminé à mettre fin à cet handicap dont souffrent ses administrés. Parmi les causes de ces embouteillages, il cite entre autres les stationnements prolongés des véhicules poids lourds le long des artères et la présence sur la voie publique des véhicules en panne et des épaves abandonnées. Pour fluidifier la circulation, le gouvernement provincial décide de construire le long de la route nationale numéro 1 des aires de stationnement et de repos pour les véhicules. Il décide aussi de la mise en place d'une commission devant préparer un plan d'urgence pour régler cette question liée aux embouteillages. Cette commission sera composée des ministres provinciaux ayant dans leurs attributions les transports et voies de communication, ainsi que les affaires foncières et aménagement du territoire. Elle sera aussi chargée de superviser l'opération d'évacuation des véhicules en panne et des épaves des véhicules abandonnés sur la chaussée partant de Matadi jusqu'à Kasangulu et de veiller sur les stationnements prolongés des véhicules sur l'emprise. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La police sud-africaine annonce avoir secouru 90 migrants éthiopiens qui étaient retenus contre leur gré dans une propriété de Johannesburg. Les migrants éthiopiens auraient fait l'objet d'un trafic illégal. Ils ont été entassés dans des petites pièces et enfermés, selon la police. Deux personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Les infortunés ont été emmenés dans un hôpital pour y recevoir des soins médicaux et les deux suspects devront répondre de leurs actes devant la justice. Les autorités y compris Interpol, se sont inquiétés du trafic des migrants éthiopiens qui transitent par plusieurs pays d'Afrique australe dans le but d'atteindre l'Afrique du Sud. Ils sont souvent victimes de la traite et maintenus dans des conditions dangereuses. En 2020, par exemple, au moins 64 originaires d'Éthiopie ont été retrouvés mortes dans un conteneur au Mozambique, alors qu'en 2022, les corps de 30 migrants éthiopiens ont été retrouvés dans une fosse commune au Malawi. La même année, les corps de 27 hommes éthiopiens ont été retrouvés abandonnés en Zambie.
L'invité.
Dans la province du Maniema, le centre Mamaline, qui s'occupe de l'encadrement des femmes vulnérables et victimes de violences sexuelles et de celles abandonnées, sollicite l'appui du gouvernement. D'après sa directrice, le centre Mamaline reçoit beaucoup de demandes de formation des femmes en entrepreneuriat notamment, mais ces centres restent limités. Marie-Claire Manafundo l'a dit le week-end lors de la clôture de la sixième session de formation de ces femmes. Marie-Claire Manafundo est notre invitée. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Marie-Claire Manafundo, bonjour.
Bonjour Florence.
Vous venez encore une fois de clôturer la sixième session de formation au centre Mamaline. Qu'est-ce qui a été la particularité pour cette année où vous êtes en train de former les femmes victimes de violences, veuves, orphelines et différentes catégories de femmes même abandonnées?
La particularité est que cette fois-ci que nous avons reçu pour l'inscription 4 à 50 femmes. Et de ces 4 à 50 femmes, compte tenu des critères de sélection, nous sommes arrivés à 180. Mais avec les 180 femmes, c'est difficile de les réunir dans une même salle et de les former correctement pour leur donner ce dont ils ont besoin. Alors cette particularité pour cette année, nos activités font sujet des évaluations après chaque phase. Alors nous sommes rendus compte qu'il fallait segmenter. Et cette fois-ci, on a segmenté les apprenantes en 3 salles et nous avons eu un résultat fantastique.
Et pourquoi seulement votre formation ne se limite qu'à la coupe-couture, pâtisserie, savonnerie? Pourquoi vous ne voulez pas chercher d'autres? Pourquoi les choix de ces thématiques?
Au fait, un projet, c'est par rapport à un besoin. Alors, l'étude du milieu fait que nous trouvons qu'il y a un besoin criant par rapport à la formation de la femme, surtout par rapport à nos milieux. Ici, comme à Niamey, vous comptez, beaucoup de femmes n'ont pas étudié et avec ces niveaux d'instruction inexistants, ils ont la difficulté pour affronter la vie compte tenu de leur catégorisation. Comme vous voyez, il y a le groupe de ceux qui sont violés, les analphabètes, les stigmatisés, les femmes abandonnées. Alors, par rapport à ces besoins, nous organisons ces sessions de formation. Mais cette fois-ci, nous voulons élargir et nous voulons parler avec l'autorité pour que nous puissions joindre la menuiserie pour voir aussi du côté homme qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier et gagner la vie.
Quel bilan alors faites-vous de ces 5 ou bien 6 sessions de formation organisées en faveur de la femme du Maniema?
Un bilan très positif, un impact très positif, parce que de la première session aujourd'hui à la sixième, nous avons su mis dans la communauté donc au moins 500 et 6 femmes, donc 500 et 6 ménages. Donc, nous avons autant de familles qui ont trouvé un appui et l'écho est très positif et nous avons même été en contact avec les hommes qui viennent et même témoigner de cet impact positif dans la société. Donc, le bilan est très, très positif.
Une façon pour vous de résoudre un peu les taux de chômage dans la province du Maniema?
Les taux de chômage, oui, oui, mais ça c'est par la suite. Mais chômage comment? Parce qu'il faut d'abord avoir quelque chose pour être employé, mais vous ne connaissez rien. Alors nous commençons d'abord par leur donner ce qu'ils peuvent leur mettre à la concurrence pour qu'ils puissent être sur le marché d'emploi. Les taux de chômage, oui, mais nous les relevons du niveau zéro pour leur mettre sur le marché d'emploi et voir comment ils peuvent être utilisés. Mais ces femmes-là, je vous dis, Florence, ce sont les femmes qui ont créé leur emploi. Donc, sortant des centres Mamaline, on n'est pas tellement demandeur d'emploi, plutôt on est producteur d'emploi.
Mais qu'en est-il de ces projets de création, des ateliers pour ceux-là que vous formez ici?
Oui, ce programme-là est toujours là. La création d'un grand atelier, c'est un projet qui est toujours dans nos tiroirs. Mais comment l'exécuter?
Vous n'avez pas de partenaires?
Nous avons des partenaires, mais nos partenaires ont des limites. C'est ainsi que nous appelons toujours nos partenaires et les plus directs. Et le principal doit être l'État congolais pour qui nous sommes en train de travailler parce que tous sont le peuple de l'État congolais. C'est la population de l'État congolais que nous sommes en train de former. Est-ce que l'État congolais ne peut pas venir pour nous appuyer dans cette activité? Parce qu'il y a un besoin. Quand ils ont un niveau, il y a ce besoin-là qui fait qu'ils doivent se retrouver dans des spécialités. On peut faire des ateliers avec des machines à broderie pour qu'ils puissent développer ça. Mais nous ne sommes pas encore capables de le faire parce qu'il y a un problème de la construction qui est en train de souffrir. Et il y a un problème aussi d'équipement. Alors, nous sommes en train d'étendre la main vers d'autres partenaires, mais il faut savoir que nous avons de grands partenaires au sein de l'Église qui ont aidé. C'est ainsi que nous voulons bien que le nouveau gouverneur tourne son regard vers le centre Mamaline pour nous appuyer.
Madame Marie-Claire, merci.
Merci beaucoup, Florence.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa, le tout sous la coordination de Jude Mister Bilanda.